Martin également.
C'est vrai.
Et du coup, Martin et moi, nous sommes rencontrés à l'heure où on devait faire des choix décisifs. On était au lycée et on s'est dirigé vers des études qui n'étaient pas très éloignées l'une de l'autre. Martin est parti faire de l'architecture à Paris et pour ma part, je me suis dirigé à Angers, à l'école du paysage. Et dès le départ, on s'était en quelque sorte promis de faire des projets ensemble dès qu'on aurait un minimum de compétences et de connaissances amassées. Et puis finalement, quelques années ont passé et sans qu'on puisse vraiment croiser nos disciplines autour de projets.
Et alors, une fois que j'étais en Erasmus à Lisbonne et alors que Martin était en échange de son côté à Hambourg en Allemagne, il m'a contacté, il m'a rencontré une initiative de son école qui mettait en place un concours qui avait un thème assez ouvert, mais néanmoins intéressant, qui était « Inventer l'habitat du futur ». Et la seule condition de ce concours, c'était d'avoir dans l'équipe au minimum un étudiant en paysage et un étudiant en architecture. Donc naturellement, ça a été l'occasion parfaite pour nous de se frotter à une première expérience et une première collaboration.
Et ce concours, c'est le concours qui s'appelait Naturapolis. Et c'est donc à cette époque-là, c'était un des seuls concours qui nous obligeait à croiser les disciplines. Et on a même eu la chance de travailler avec des étudiants en histoire de l'art, avec des étudiants urbanistes. Et dans nos études, ça a vraiment été la première fois qu'on a pu sortir chacun un peu du champ de notre discipline. Et on s'est donc retrouvé à Paris pendant une semaine pour travailler sur ce sujet, pour brainstormer un peu. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait une façon d'aborder le projet qui était complètement différente, qui était issue d'une culture de l'enseignement effectivement différente, mais à la fois qui était deux façons de travailler qui étaient extrêmement complémentaires.
Puis comme on n'avait pas eu l'habitude de travailler avec une autre compétence, c'est vrai qu'au début, on a eu une certaine retenue l'un par rapport à l'autre. On avait peur que dans le projet, une compétence prenne le dessus et que ça se ressente dans le rendu. Et donc, de cette première collaboration est née une première version en fait, du projet qu'on va vous présenter. Première collaboration qui a été récompensée par le troisième prix du concours Naturapolis. Et cette réussite nous a vraiment poussé à conforter en tout cas dans l'idée de croiser les disciplines.
Et c'est de cette première étape que vient le titre de cette conférence qu'on a appelée Pardonne-moi Nature. Alors pardonne-moi pourquoi ? Pardonne-moi citoyen, pardonne-toi aménageur, pardonne-nous architecte, peut-être de t'avoir un petit peu délaissé depuis quelques années. Et indépendamment l'un de l'autre, avec Martin, nous étions partis dans la considération du sujet inventer l'habitat du futur sur des thématiques qui étaient similaires. La situation étant ce qu'elle est, on voit d'ailleurs actuellement vis-à-vis des images catastrophiques qu'on peut voir d'ailleurs en Amérique sur les dangers des catastrophes naturelles et des conséquences du changement climatique, qu'il y avait beaucoup de travail à fournir dans ce domaine. Donc pour nous, l'habitat du futur, il ne devait pas forcément représenter une façon ou une manière de vivre futuriste, mais il devait, à l'inverse, traiter un futur extrêmement proche, qui est un futur qui prend en compte les enjeux actuels.
Parce que l'habitat du futur qu'on a voulu considérer, c'est l'habitat de notre futur. C'est celui qu'on laissera derrière nous. Et donc, il commence maintenant. Alors, pour comprendre les enjeux auxquels on s'est frotté, il faut savoir qu'on s'est effectivement basé sur nos compétences et nos connaissances personnelles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous les deux Nantais, on a grandi à Nantes, et que Nantes est une ville qui est très proche de son fleuve, la Loire, à l'instar de Bordeaux d'ailleurs, et que par contre, elle est soumise au marnage de l'Atlantique. C'est également une ville qui est très dynamique, la croissance démographique est hyper importante. D'ici 2030, on attend environ plus de 100 000 nouveaux habitants. Et suite en fait aux lois Grenelle qui ont déterminé des objectifs de densification afin de limiter l'étalement urbain, et aussi à l'heure où des néo-ruraux tentent, après la désertification des campagnes dans les années 30, les villes elles doivent aussi inverser la tendance sur cette question centrale de la nature en ville.
Et la nature en ville cherche aujourd'hui en quelque sorte une nouvelle manière de cohabiter. On est loin du simple souci d'esthétisme ou d'hygiénisme dont faisaient écho les espaces verts des années 70. Et si le désir de nature des citoyens n'est pas du tout nouveau, on sent actuellement, on sent que l'homme contemporain, il semble aspirer à un certain retour à la terre comme un lien qui le lie à l'échelle de son territoire. Seulement, le citadin, il entend souvent par nature une nature domestiquée, une nature transformée, et on observe en ce moment un peu un changement de perception, un changement de position par rapport à cette notion de nature. C'est d'ailleurs une des thématiques qui est beaucoup développée dans cette agora. Et le citadin semble plus enclin d'essayer une forme plus libre de nature se développer, favorisant les aspects écologiques de la biodiversité. Prendre ses quartiers dans les rues, dans les parcs, dans les jardins et finalement dans tout interstice urbain possible.
D'autant plus que la nature urbaine, c'est un véritable élément constitutif du paysage urbain. Elle est souvent synonyme de bien-être. Et c'est dans ce prolongement que s'intègre du coup notre projet. Au-delà en fait, de la nature qui est souvent représentée par des aplats verts sur des cartes totalement abstraites, il existe vraiment une nature qui est en mouvement, qui est vivante. Et cette nature-là, c'est l'océan. Et alors, au même titre que la nature végétale, elle est en danger et dangereuse. Donc la question des risques qui sont liés aux inondations, elle pose toujours un souci quant à sa compréhension. Et puis les points de vue divergent et s'y opposent. Entre le maintien d'un site naturel, de ses écosystèmes, de sa biodiversité et des projets d'aménagement du territoire et de la ville, se pose d'un côté une prise de conscience environnementaliste qui promeut un développement de la biodiversité ou des corridors végétaux, et d'un autre côté, un désir d'aménagement de ces espaces par un recours au bâti.
Et donc, ce projet est pensé dans son territoire, mais tout en gardant une certaine universalité lui permettant de se transposer, ou en tout cas de se transmuter à d'autres régions. Cependant, le site sur lequel nous avons implanté le projet, il a fortement nourri notre proposition. Et pour nous, le projet ne doit pas du tout être indissociable de son environnement. Le site dont on parle, il prend place aux abords d'un ancien village de Nantes qui s'appelle Trentemousse. C'est un ancien village de pêcheurs qui a subi une forme de gentrification et qui aujourd'hui est un lieu très prisé des Nantais. C'est également un des villages qui est une des communes les plus inondables de l'agglomération nantaise. Elle est soumise au marnage de l'Atlantique qui, du coup, quotidiennement va et vient à Nantes. Et lors des plus gros coefficients, on a un delta qui va jusqu'à 6 mètres.
Alors, ces enjeux de la densification urbaine, de la montée des eaux, de la nature en ville, on a commencé à s'y intéresser il y a 3 ans environ. Et il y a maintenant un an, on apprend que la fondation d'entreprise Beneteau organise un concours qui a pour thème l'habitat flottant. Avec le cheminement qu'on avait fait chacun de notre côté, on avait acquis plus de compétences, un peu plus d'expérience dans les pattes. Ça a été l'occasion pour nous de se dire, c'est parfait pour nous, on va pouvoir développer notre premier concept, notre première esquisse, afin de faire fonctionner véritablement toutes les données qu'on a commencé à mettre en place. Ça nous a aussi conforté dans le fait que cette problématique de l'architecture et de l'eau, ça devenait une problématique qui était actuelle et partagée par de nombreuses communes. À l'instar de Bordeaux, qui a mis en place des concours où je crois que d'ailleurs aujourd'hui, il y a la remise des prix d'un concours Habitat sur Pilotis, on s'est rendu compte que cette problématique était vraiment générale. Donc ça a été pour nous, Martin et moi, l'occasion de se remonter un peu les manches et d'essayer de faire fonctionner dans son ensemble cette idée de quartier du futur, finalement pas si futuriste que ça. De faire vraiment fonctionner l'ensemble de manière cohérente.
Et quand Martin dit fonctionner, c'est véritablement le cas. La ville est une machine. Elle est composée d'un ensemble d'éléments qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres. L'espace public est finalement à la tuyauterie, ce que l'habitat est aux engrenages. Et de la même manière, notre projet, c'est la somme d'éléments qui le composent. Et le programme du concours Beneteau, qui prévoyait initialement d'organiser environ 200 logements sur notre site et la mise en place d'une digue, nous ne l'avons pas vraiment respecté. Nous avons donc naturellement fait environ 80 logements et aucune digue, parce qu'on a voulu tirer parti du marnage et de l'eau pour s'inspirer de notre projet. Et donc, une des leçons que nous avons retenues, c'est qu'il n'est pas forcément intéressant et il ne faut pas forcément suivre le brief d'un concours, car nous avons eu l'immense bonheur de recevoir le premier prix de la Fondation Beneteau.
Et alors, avant d'obtenir ce premier prix, on a naturellement re-questionné donc le programme qui, selon les différents enjeux que nous avions identifiés, ne pouvait pas se synthétiser à l'habitat seul. Donc on a développé trois sujets qui sont l'habitat, la mobilité et la biodiversité. Et en fait, de la même manière qu'un iPhone est composé d'un téléphone, d'un iPod et d'un navigateur Internet, ici c'est la même chose. L'ensemble des composantes, une fois articulées, elle nous a permis de renverser l'état des choses. Et quand je dis renverser, en fait, la volonté, elle n'était pas, comme on le fait depuis des années, d'introduire la nature en ville, mais bien d'introduire la ville dans la nature. Et de la même manière, l'élément eau, il ne devait pas être considéré comme un risque ou comme un danger, mais bien devenir ressource, un moteur qui rentre au service de la ville. En termes d'énergie d'abord, évidemment, mais également en termes de ressources, d'éléments de paysage et de bien-être.
L'idée, ce n'était pas de prendre la montée des eaux comme un risque. C'est aujourd'hui, face aux crues, face aux grandes marées et plus généralement face aux inondations, l'attitude consiste à se protéger en aménageant des digues et en essayant de contenir ces éléments et contenir l'eau. Et avec Martin, dans le projet, nous avons fait le cheminement inverse en acceptant l'eau sur la totalité de notre site afin de se nourrir du mouvement, de sa force pour générer un nouveau quartier. Et notre réflexion s'est nourrie de cette à l'envers, si je puis dire. Et on a compris beaucoup de choses en même temps qu'on dessinait le projet. Le risque, finalement, c'est la résultante d'un aléa par un enjeu. L'enjeu sera toujours présent. Notre objectif est donc de réduire l'aléa à minima. Étant donné que l'aléa, ici, c'est l'eau, et que l'eau, on ne la contient pas, mais on l'accepte, on réduit et on minimise cet aléa, ce qui fait que le risque devient quasiment nul.
Si on récapitule jusque-là, par les enjeux de densification urbaine et de nature en ville, on s'est intéressé aux zones délaissées et inondables.
Et nous proposons un regard un petit peu différent, une manière haute d'appréhender la gestion des risques naturels.
Alors vous allez me dire, et les gens dans tout ça ? Parce qu'un quartier qui vit, pour nous, c'est un quartier où le lien social est existant. C'est un peu tout le propos de l'espace public. L'espace public, c'est un lieu d'appropriation. L'espace public, il est assez universel et il trouve son essence dans les usages insoupçonnés. Dans les villes, il est souvent il est souvent un espace interstitiel qui est issu d'un plan urbanistique en évolution. Par exemple, à Paris, les grandes places, elles sont souvent sur les vestiges des anciennes enceintes de la ville. Dans le cas de ce quartier nouveau, on s'est du coup questionné sur qu'est-ce que l'espace public, comment sera l'espace d'appropriation de demain.
Et à ce titre, on s'est très vite confronté à cette question et à ce rapport dans un quartier d'habitat entre l'espace privé et l'espace public. Et alors, on s'est posé la question de se dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sous prétexte qu'on a un petit peu on a de l'argent, on peut s'approprier une partie du territoire. Initialement, finalement, le globe, au départ, pouvait s'apparenter à 100% d'espace pour tous, d'espace public. Et dans cette réflexion, on a décidé que vu du ciel, notre quartier aurait 100% de sa superficie dédiée pour tous, donc 100% d'espace public. L'ensemble des toits deviendrait ainsi public et nous prévoyons d'insérer des formes d'habitat entre le ciel et la mer.
Donc les toits connectés entre eux deviendraient les rues du quartier. La mobilité, c'est vraiment un enjeu majeur du projet. Se situant en zone inondable et ayant un rapport très proche à la nature, on a directement pu exclure la voiture de notre réflexion. Il était assez évident pour nous qu'aménager un quartier en reconnexion avec la nature et le paysage, ça allait avec l'idée de circulation exclusivement douce. Alors c'est pas un geste anodin, effectivement, d'exclure la voiture, mais c'est une politique qui est menée par l'ensemble des grandes métropoles qui cherchent à promouvoir en fait de nouvelles formes de mobilité individuelle et collective.
Et donc nous proposons un réseau de passerelles qui relie les bâtiments entre eux. Et donc ces passerelles sont le lien qui permet la mise en vie et la mise en lumière du quartier. Et pour appuyer notre propos et se sentir pleinement en connexion avec la nature et les éléments, on a décidé de végétaliser les abords de cette passerelle de manière à sortir le garde-corps du champ de vision et donc laisser ce sentiment de flotter et de voguer et de retrouver finalement ce sentiment de liberté et d'évasion.
Alors quand tu parles de flotter, c'est véritablement le cas. Parce que la montée des eaux, elle va rythmer la vision de l'architecture et de l'habitant qui va vivre dedans. Parce qu'on va finalement avec un paysage qui est en mouvement, on ne vit jamais au même endroit. L'habitat va évoluer avec le temps et on va reconnecter l'habitant à la nature. C'est permis en fait par la solution du pilotis, qui est une architecture un peu simple et délicate et qui reprend la forme des anciennes maisons du village de Trentemou. Mais c'est aussi une architecture qui se veut connectée avec l'espace public et la nature par des terrasses qui évoluent et des toits végétalisés connectés. L'idée, c'est vraiment d'avoir toujours des lieux de vie et de rencontre en tout temps.
Et donc, nous proposons en appui de ces toits qui sont donc reliés par les passerelles d'inscrire ce qu'on a appelé des ressourceries. Ces ressourceries viennent vraiment appuyer le lien social du quartier et c'est des lieux où les gens vont vivre les uns avec les autres, les uns liés aux autres et où vont pouvoir prendre place les clubs et les associations au centre du quartier.
Alors dans les deux cas, pour l'habitat et les ressourceries, l'idée c'était que l'ossature, au-delà de son rôle structurel, elle dépasse vraiment le cadre du bâtiment et elle devienne un portique ou une sculpture ou un potentiel d'expansion de la nature à la manière d'un tuteur avec une plante. Et en fait, rythmé par les saisons et les marées, les habitants devraient avoir l'impression de vivre un retour à la nature.
Et lorsque l'on a travaillé sur ce sujet, on cherchait en permanence finalement à intégrer la biodiversité au cœur du quartier. Et afin de l'intégrer au mieux, on a décidé de préserver au maximum, dans un premier temps, les milieux aquatiques, étant donné qu'on acceptait l'eau sur l'ensemble du site. Et on a proposé de créer ce qu'on appellera des îlots de biodiversité où on peut préserver les espèces végétales présentes sur site, les espèces protégées comme l'angélique des estuaires par exemple à Nantes et de venir valoriser les espèces qui rythment le paysage ligérien. Également, on viendra amener d'autres végétaux qui s'inspireront de la flore locale. Et à l'instar des prairies humides que l'on conserve sur le site, on cherchait également à préserver l'ensemble de la petite faune qui pouvait déjà se trouver sur le site.
Alors de la même manière, les jardins partagés et les potagers partagés qui sont sur les îlots et sur les toits de nos habitations, ils permettent de maintenir une activité agricole qui est durable. C'est l'agriculture urbaine en fait, qui va combiner les besoins de naturalité des citoyens et qui propose un nouveau système de production qui est davantage tourné vers le consommateur. Et elle va aussi venir renforcer le lien social et offrir des moyens d'appropriation de l'espace public. Et enfin, la plantation de nouveaux sujets, comme tu le disais, elle vient en appui d'une politique de l'arbre qui est présente de plus en plus en France et notamment à Nantes.
Donc nous souhaitons en quelque sorte proposer une évasion à la ville moderne. On propose de s'affranchir de notre monde pour revenir à un rythme un petit peu plus biologique. Et sortir de la ville pour essayer de toucher le paysage, rejoindre finalement les horizons. Et c'est cette notion qui nous est très importante car elle définit un petit peu le paysage, comme pouvait le dire Michel Corajou, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Et la connexion parfaite de la ville avec la nature passera par l'idée de réinvestir les horizons au sein de celle-ci.
Alors, si on devait un peu récapituler ce qu'on vient de vous dire, on a vraiment souhaité proposer un projet qui trouve des réponses à la densification urbaine et la nature en ville.
Un projet qui propose un regard un petit peu différent sur la gestion des dangers naturels.
Un projet qui innove en termes de mobilité, d'habitat et de mode de vie.
Un projet qui vient questionner le rapport espace public-espace privé.
C'est un projet aussi qui valorise des espaces délaissés autant d'un point de vue architectural que paysager.
Et c'est surtout un projet qui essaye de redonner un petit peu de valeur et d'usage à des espaces qui l'avaient perdu.
Enfin, c'est un projet qui lie le citoyen à son territoire.
Alors, notre recherche sur le projet, sur le développement et toutes nos réflexions, a fini par être pris par des rencontres. C'est-à-dire qu'on a dû un petit peu arrêter de travailler sur le sujet pour rencontrer des gens et discuter de ce projet. Parce qu'on a été surpris de recevoir un matin un premier courrier de la mairie de Nantes souhaitant nous rencontrer.
De même, on a par la suite en fait rencontré plusieurs maires de communes qui étaient plutôt dans la région nantaise, mais qui étaient tous intéressés et curieux de cette façon d'aborder le projet et du retour à l'eau. Ils nous ont d'ailleurs incités à poursuivre notre travail pour le développer aussi bien économiquement que techniquement.
Et c'est un sacré coup de pouce qui nous a été donné par certaines publications qu'on a pu avoir dans la presse locale autour de Nantes. On a eu la chance d'avoir un petit reportage à la télévision régionale et puis plus récemment des articles dans de la presse spécialisée qui nous ont donné une autre visibilité par rapport à notre travail.
Et c'est un peu grâce à ça que des investisseurs sont finalement intéressés à notre travail. Parce que riche du travail accompli, en fait, ils étaient prêts à nous suivre et à nous faire confiance sur divers projets.
Et donc, aujourd'hui, nous avons monté une société capable, ou en tout cas qui essaye de répondre à ces enjeux. Cette agence s'appelle FAR, pour Fabrique Pluridisciplinaire d'Architecture. On vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site pour voir un peu plus notre travail, si vous le souhaitez.
Parce qu'en soi, on a vraiment été convaincus de la nécessité et des bienfaits de l'approche transversale de nos métiers, de cette complémentarité entre le paysage et l'architecture. Et donc, nous sommes associés paysagistes, architectes et également architectes navals.
Et donc, finalement, notre spécificité, c'est cette pluridisciplinarité, tout comme on est chacun un petit peu spécialiste, expert dans notre domaine. Et donc, nous travaillons aujourd'hui sur différentes thématiques qui sont transversales à l'architecture et au paysage.
Alors, on tient à remercier Agora et Michel Laruche-Charlu de nous avoir offert cette tribune. On tient à vous remercier de nous avoir écoutés. Et on aimerait beaucoup, en fait, vous entendre réagir à ce qu'on vient de vous raconter et de répondre à d'éventuelles questions.
Merci.
Bonjour. Je voudrais vous poser une question. Vous allez vous retrouver confronté certainement à des...
Est-ce que vous parlez un tout petit peu plus fort ?
Oui, bien sûr. Merci. Peut-être un peu plus près du micro, ça sera mieux.
Merci.
Est-ce que vous avez conscience que vous allez vous retrouver face à des problématiques aussi liées à l'environnement, nécessairement, la DREA, des oppositions aussi liées à des associations ? Ici, localement, il y en a plusieurs. Qui font attention à la nature, et heureusement. À la fois, comment vous abordez cette problématique par rapport à la DREAL dans vos projets? J'imagine que vous montez très en amont tout ce qui est les diagnostics, faune flore, etc. Vous avez certainement, par rapport à ce projet-là, fait des études. Donc comment vous communiquez avec ces organismes de l'État qui sont là pour protéger aussi la nature?
Alors c'est une question qui est très intéressante, parce que c'est vrai que c'est notre quotidien. On travaille en permanence avec ces gens-là. À savoir au départ que ce projet, initialement, c'était un projet qui était un appel à concours d'idées. Donc on l'a pensé au départ, et donc ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'était quelque chose qui sortait vraiment de notre réflexion et qui n'était pas du tout en lien avec des acteurs comme vous le parlez. Et aujourd'hui, qu'on est dans ces phases-là, on dialogue, on discute avec ces acteurs. C'est un travail qui est long, on le sait. C'est pas un travail qui est facile. Et en même temps, c'est toute notre envie, c'est de se dire qu'on n'est pas là pour du tout imposer une façon de penser, imposer un projet, mais d'essayer d'ouvrir un nouveau dialogue, une nouvelle façon peut-être d'aborder de nouvelles formes d'habitat, une nouvelle forme aussi de nature en ville. Et de travailler ensemble pour essayer de la faire émerger.
Quand vous dites qu'on va rentrer en conflit avec des associations, en fait, nous, on essaie de se mettre du côté de ces associations, d'être avec eux, parce que tout notre enjeu, justement, c'est de développer une biodiversité qui est déjà existante et de ne pas, justement, venir la perturber par la construction, mais bien que cette construction, dans ces espaces délaissés, elle vienne l'améliorer et la développer de manière durable.
Et peut-être il faut préciser, le site sur lequel on a projeté notre projet est aujourd'hui une zone, en fait un vulgaire parking. C'est pas du tout une zone naturelle où la nature prend ses droits et qu'on souhaite tout à fait conserver ces endroits-là. L'idée, c'est vraiment de venir réinvestir des espaces délaissés et qui ont perdu d'usage et de qualité.
Oui, bonjour. On dit souvent, enfin moi j'ai très souvent entendu Pascal Cribier dire que ce ne sont pas les paysagistes qui font du paysage, et là ce sont les politiques qui décident où seront implantés les nouveaux quartiers en général, bien avant la consultation de leurs conseillers. Donc moi je trouve que votre approche est très novatrice, même si elle reste assez simpliste, parce qu'on n'aborde pas trop les sujets techniques. Mais de montrer à des politiques que la ville est possible et que des modes d'habitat différents sont possibles, ça peut les aider à faire un paysage qui soit différent. Ce sera toujours eux qui feront le paysage, mais on peut mieux les aider. Cela étant dit, comme je ne vais pas prendre la parole plusieurs fois, je vous pose toutes mes questions d'un coup. L'eau qui rentre, elle est salée ou elle est... c'est l'eau des fleuves sur votre site en particulier, mais après on peut gérer cette question avec les eaux salées et les eaux de fluviales. Et quand on voit votre terrain en particulier, ça semblait assez utopiste parce qu'on se dit qu'elle rentre, mais elle n'est pas confinée à la limite du terrain. Donc si le lot d'à côté n'accepte pas la même qualité, enfin, quantité d'eau, comment vous faites et comment elle sort? Parce que là, on a beaucoup vu l'eau présente, mais pas tellement les flux.
Alors, le terrain en question, on ne le voit peut-être pas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas mis d'image du site existant. Non, on n'a pas d'image du site existant. Mais l'ensemble du terrain est décaissé. C'est-à-dire qu'on vient proposer, nos passerelles ici viennent se connecter, viennent se raccorder à l'espace public existant, et on a un décaissé de 6 mètres ici qui vient absorber le marnage. Et donc finalement, nos bâtiments, eux, sont au même niveau que l'espace public actuel. Et donc l'eau, de toute manière, ne peut pas venir s'épandre au-delà de l'emprise de ce site qui était réservé pour ça. Pardon.
Sur la question des eaux salées, des flux, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Nantes, Nantes est située à la rencontre des eaux salées de l'Atlantique et des eaux douces de la Loire, et que cette rencontre, en fait, de deux eaux différentes, elle crée un biotope qui est assez rare et assez précieux qui est à l'origine d'écosystèmes qui sont particulièrement intéressants, qui sont présents seulement sur ce couloir ligérien. Voilà.
La question était peut-être un peu plus également technique sur la façon dont on aborde cette question d'habitat par rapport à cette eau salée qui est forcément violente, les courants sont violents. Aujourd'hui, on est justement en train de réfléchir et de travailler techniquement sur des solutions qui seront pérennes. La réponse qu'on avait émise dans ce concours, c'était de l'habitat qui était surpiloti, parce qu'à l'époque, c'était une architecture, comme on l'a dit, qui était simple, qui était délicate, et puis on n'était pas dans ces considérations-là qui étaient techniques. Aujourd'hui, à l'heure où on s'y frotte, d'ailleurs sur ce site, ce ne sera certainement pas du pilotis si on devait construire qui s'y ferait. On a également au sein de l'agence des architectes navals qui travaillent avec nous, donc on réfléchit également à de l'architecture flottante. Donc on a différentes typologies de choses. Aujourd'hui, on ne s'interdit absolument rien et on vient se confronter techniquement à ces nouveautés, en fait, et on y trouve différentes solutions.
Alors d'abord, félicitations pour ce projet, hein, que je trouve que c'est une très belle démarche. Moi, j'ai une petite question par rapport à ce genre de projet qui s'intéresse aux fleuves et qui viennent un petit peu développer les villes par le fleuve, parce que le fleuve, c'est à l'origine, les raisons d'être des villes sont nées par le fleuve. Donc là, on vient non seulement retrouver le fleuve et surtout conquérir le fleuve, parce qu'on est sur un domaine fluvial. Et ça pose aussi un petit peu la question de la maîtrise foncière dans ces projets qui sont sur pilotis ou flottants. Dans la concrétisation d'un projet comme ça, comment vous imaginez justement cette maîtrise ?
Alors sur ce projet-là, ce qui est particulier, c'est que l'ensemble du foncier n'appartient pas à la commune sur laquelle on a pensé le projet. Il appartient aux affaires maritimes. Voilà. Donc c'est tout à fait une particularité qui est singulière. Sur ce site-là, du coup, on n'a pas encore résolu cette question de foncier. Donc on doit en discuter avec les affaires maritimes. Maintenant, sur d'autres projets où le foncier appartient à la commune, c'est beaucoup plus simple. Et les communes n'ont pas l'air. C'est pas une question qu'ils ont soulevée, en tout cas avec nous. Et pour eux, la question du foncier n'est pas. Ils vont gérer ça, je suppose, classiquement, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas été confronté à des difficultés par rapport à ça.
J'aurais une question par rapport au terme que vous utilisez de territoire délaissé. Je voudrais savoir ce que c'est pour vous un territoire délaissé et en quoi ce territoire-là est délaissé?
Pour nous, je pense que les territoires délaissés, c'est tout ce qui est des territoires qui ont une vie à un moment donné, qui l'ont perdu, anciennes friches industrielles, anciens interstices urbains qui sont issus d'une évolution urbaine dans une ville qui a créé des espaces. Alors celui-ci, en l'occurrence, c'est une zone inondable, donc jusqu'ici inconstructible, et donc qu'on ne traite pas à sa juste valeur, qu'on déleste véritablement, dans le sens où on ne cherche pas à construire ou à développer une biodiversité ou à développer une qualité déjà intrinsèque à ce site. Et pour nous, les délaissés, c'est tous ces espaces qui ont un potentiel qui est pour l'instant inexploité.
Et c'est délaissé au sens également, comme disait Madame tout à l'heure, elle parlait du rapport aux politiques. Et au départ, on a essayé de chercher un projet où on cherche à répondre à ces questions de nature en ville et de densification urbaine et à trouver du coup des nouveaux refuges qui sont aujourd'hui inexploités, qui sont surtout difficilement gérés par les communes. Et c'est là où les communes sont intéressées par cette réflexion, parce que c'est aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, soit des parkings qui se frottent à des contraintes de gestion, d'entretien et d'occupation pas forcément souhaitées. Et donc, c'est des enjeux pour eux sur ces espaces-là. Et c'est en ce terme-là qu'on appelle ça des délaissés. Mais après coup, ce n'est pas un délaissé au sens propre de la nature ou du paysage, parce qu'on cherche justement à remettre en valeur et à partir de l'existant et à continuer à valoriser ces espaces.
Bonjour. Pour ce projet, vous favorisez la circulation douce. Mais qu'est-ce que vous faites de la question de l'automobile, des circulations automobiles? Est-ce que vous gérez plutôt ce problème en périphérie? Qu'est-ce qui est prévu?
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'on nous l'a fréquemment posée. C'est-à-dire qu'on est au cœur d'une grande métropole qui a aujourd'hui de nombreux transports en commun. Il s'avère qu'on a également il y a un nouveau tramway qui arrive à Nantes, qui va arriver quasiment jusqu'à notre site. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'ensemble des politiques des villes vont, et même de la politique de l'État, va réduire l'utilisation de cette voiture. Et dans ce sens-là, on voulait réfléchir. Donc on voit aujourd'hui émerger de nouvelles mobilités individuelles qu'on voit un petit peu partout. Et on pense que tout ça va ne faire que s'accentuer, s'améliorer. Et donc la voiture va, à notre sens, petit à petit s'effacer.
Bon, bah dans la série des questions embêtantes, je continue. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, la métropole de Nantes doit acquérir des voitures pompiers amphibies, des ambulances amphibies? Et autre question embêtante, qu'est-ce que vous faites des effluents? Est-ce que c'est marné sur place ou est-ce que c'est relié quand même à... Est-ce que vous allez jusqu'au bout de la parcelle un peu autonome ou est-ce que vous vous raccordez au vide sanitaire, je ne sais pas comment on dit, au réseau?
Alors là, ça dépend des communes également. C'est-à-dire qu'on réfléchit à gérer l'ensemble sur des parcelles. Et à l'intégrer sur du coup des projets également, donc ça donne beaucoup de place à cette gestion là. Donc il nous faut des sites qui sont suffisamment importants pour pouvoir gérer sur place. Et puis il y a aussi des communes qui souhaitent qu'on cherche à relayer dans les réseaux existants. Maintenant sur la question des pompiers, c'est très juste, c'est très vrai, et exactement c'est la question qu'on est en train de soulever sur l'ampleur d'un quartier comme ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver des nouvelles solutions pour l'accueil et pour la possibilité des pompiers de venir trouver des solutions. Maintenant, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux, qui est extrêmement important. Et on n'est pas non plus aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans la réalisation d'un quartier de cette taille-là, dans les réflexions avec les différentes communes qu'on peut avoir. Mais à terme, peut-être on peut souhaiter d'ici 10, 15, 20 ans, 30 ans, une évolution dans ce sens-là, et auquel cas, toutes ces questions-là trouveront des réponses. S'il n'y a plus de questions, on va vous libérer alors. Et merci encore à tous d'avoir pu être là et partager ce moment avec nous. On était ravis.
Merci beaucoup.